France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Hors du commun et terrible à la fois, ce dernier jour de campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle est assez perturbant en fait, hein. Qu'est-ce qu'il emporte? Le terrible effroi survenu hier sur les Champs-Élysées ou le choix d'un candidat dimanche, ou les deux à la fois, et avant tout l'envie d'une couette et d'un pot Nutella aussi, on peut le dire. Émission consacrée à ces dernières heures de campagne. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Éric Scholl. Bonsoir, vous êtes directeur de Coin International.
Bonsoir.
Également Soazic Kemener, bonsoir.
Bonsoir.
Du journal Marianne. Le restaurateur Xavier Denamur, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous venez de sortir un livre, alors pas du tout mégalo, hein, mais c'est Denamur sur le grill, entretien au zinc avec un restaurateur libre chez Publié Court Circuit. Et dans le cadre de la campagne officielle, puisqu'on aura eu toutes les équipes dans notre album Panini présidentiel 2017. Sébastien Chenu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller régional des Hauts-de-France, délégué national du Rassemblement Bleu Marine et soutien donc de Marine Le Pen. Et en ce début d'émission, nous accompagnera aussi Jean-Pierre Pochon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Sciences Po, vous avez été directeur des services de sécurité et renseignement français à la DCRG. Alors la DCRG, ex-DST, ex-DGSE, voilà un peu...
Pas tout à fait ça.
Ah, c'est quoi alors ?
DCRG, c'est les anciens renseignements généraux.
Oui, d'accord, oui, c'est okay. Ça.
Après,
oui.
Il y a eu la DST, la direction
voilà, c'est ça, d'accord.
Qui est devenue DCRI, qui est devenue DGSI et DGSE.
Je me suis emballé sur mon clavier alors.
Vous avez dérapé un petit peu, oui.
Voilà, exactement, donc renseignements généraux. Alors, avec vous, nous revenons bien sûr sur les événements d'hier soir, 21h en haut des Champs-Élysées. Une voiture s'arrête devant un car de police, en stationnement. Un homme sort du véhicule et tire à l'arme automatique contre les policiers, tuant un représentant des forces de l'ordre et en blessant deux autres dont on sait aujourd'hui que leur pronostic vital, bien sûr, n'est pas engagé. L'assaillant a été tué. Il s'agit d'un Français, Karim Chorfi, 39 ans, originaire de Seine-et-Marne. Il n'était pas fiché S, mais était connu des services, car condamné en 2005 à 15 ans de prison pour tentative de meurtre sur trois hommes, dont deux policiers. L'attentat d'hier soir a été revendiqué par l'État islamique. Alors, Jean-Pierre Pochon, les uniformes, c'est une cible principale. On l'a vu avec des militaires notamment, et notamment aussi des policiers, bien sûr, à Magnanville. On a vu des militaires, le Louvre, Orly. C'est la cible, l'uniforme.
Oui, c'est une cible, mais c'est une cible comme beaucoup d'autres. C'est une cible d'opportunité, dans la mesure où, d'abord, ils représentent l'État. Enfin, tout a été dit sur ce drame de hier soir. Ça, les Champs-Élysées, Champs-Élysées avec la renommée internationale, en plus des policiers... quelques jours, quelques heures avant une élection présidentielle. Enfin, tout ça, c'est un timing tout à fait, je dirais, pré-réglé. Même si, encore une fois, je pense que l'intéressé, l'enquête le dira, il reste à établir le lien avec Daesh. Mais en tout état de cause, même s'il n'y a pas de lien avec Daesh, il y a une imprégnation politique, philosophique et pseudo-religieuse qui entoure ces individus qui passent à l'action. Et donc, les forces de l'ordre, c'est quelque chose qui représente la République.
Justement, Jean-Pierre Pochon, vous parliez du symbole. Donc, oui. C'est vraiment, ce n'est pas des cibles au hasard. Quand on a vu à Nice le 14 juillet, là, justement, Champs-Élysées, veille d'élection présidentielle, à chaque fois, c'est ça.
Non, mais il faut bien comprendre que Daesh, quand même, c'est une organisation assez sophistiquée. Et ils réfléchissent, ils suivent l'activité française. Il ne faut pas oublier que la France, c'est le pays haï. Nous sommes la cible numéro un, on est le grand Satan de Daesh. Et donc, tout ce qui peut faire mal à la France, tout ce qui peut désorganiser, eh bien, ils le font. Et effectivement, entre les commandos du 13 novembre et les opérations qui sont faites individuelles comme à Nice ou comme hier soir, nous avons affaire à un panel extrêmement complexe qui explique la difficulté, parce que ça, je tiens à le dire, la difficulté extraordinaire pour les services de pouvoir travailler. Parce que le nombre d'individus sur lesquels on a des soupçons de potentialité de violence et de passage à l'acte est colossal. Et sauf à devenir un régime totalitaire comme la Stasi et la RDA à l'époque, c'est extrêmement difficile.
Alors, Éric Scholl, hier, il y a une personne qui a réagi très rapidement, immédiatement, c'est Donald Trump, le président américain. Immédiatement, avec son média préféré, sur Twitter, il a tout de suite dit « c'est un acte terroriste » avant que n'importe qui déclare que ça puisse être un attentat. Et il a rajouté derrière sur Twitter, ça va influencer l'élection présidentielle. Il a réagi quand même très rapidement.
Ça, c'est Donald Trump. Ouais. On commence à s'habituer à cette façon de bombarder à la fois de tweets ou de réactions dans l'émotion, juste dans l'acte d'après. Enfin, il n'y a pas une, on n'a pas l'impression de, on a plutôt l'impression d'une réaction à chaud, sans qu'il y ait derrière toute la nécessaire, en tout cas de la part d'un dirigeant, réflexion, mise à distance et prise de décision.
Alors, Sébastien Chenu, on va entendre tout à l'heure les réactions, bien sûr, des différents politiques. Vous-même, aujourd'hui, quand vous avez vu ça hier se produire sur les Champs-Élysées, pour vous, juste avant l'élection présidentielle, c'est le symbole dont vous parlez, Jean-Pierre Pochon ?
Moi, je voudrais d'abord avoir un mot pour nos forces de l'ordre qui sont sur le terrain, qui sont épuisées moralement et physiquement. Un mot pour, je crois que c'est Xavier, son prénom, le jeune policier assassiné, à sa famille. Un mot pour lui, pour son fils, pour son compagnon, pour ces gens qui donnent leur vie pour protéger les Français. La France, comme le disait Jean-Pierre Pochon, est visée parce qu'elle est le symbole de la liberté à travers le monde. En tous les cas, elle est le symbole d'une certaine forme de résistance à l'obscurantisme. Effectivement, elle est visée. Elle est visée avec d'autant plus de facilité qu'on a le sentiment, à tort ou à raison, on peut en débattre, mais qu'en France, on n'a pas encore pris conscience de la mesure avec laquelle nous devions répondre à ces attaques et de la gravité de ces attaques qui, de toute façon, nous amèneront à devoir y répondre dans le temps avec la même force constante qui n'a pas été, il faut bien le dire, l'incarnation de ce gouvernement durant ces années, ni même du précédent d'ailleurs.
Alors, on va parler justement de différentes réactions. Juste une chose, Jean-Pierre Pochon, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est complexe, c'est justement le profil de cet homme. On s'est suivi par crainte d'un passage à l'acte contre les policiers, pas connu pour des faits de radicalisme. C'est là où c'est encore plus compliqué pour les services.
Vous savez, il n'y a pas de profil de terroriste. Ça serait d'une simplicité extraordinaire s'il y avait des profils. Si on pouvait lire ici « djihadiste », ça serait sympa, ça serait très très bien pour les... Mais il n'y a pas de profil. Il y a un certain nombre d'ingrédients qui vont transformer tel ou tel individu et qui va l'entraîner à passer à l'acte. Il n'y a pas de loup solitaire, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, ça.
N'existe pas. Les loups solitaires, ça n'existe pas. Il y a une imprégnation, il y a une matrice globale, et puis à partir de là, il y en a qui basculent, il y en a qui ne basculent pas. Et le problème pour un service de renseignement et un service de police, c'est justement c'est ce moment absolument terrible du basculement. Quand vas-tu le basculer ? On peut être radical, on peut être islamiste radical, et on n'est pas obligé d'être terroriste.
Ouais. C'est ça. Okay. On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Yasmina Adila.
Et au lendemain de l'attaque visant des policiers aux Champs-Élysées, le procureur de Paris a donné une conférence de presse. François Molins a apporté des précisions sur l'enquête. Il a confirmé l'identité du tireur. Il s'agit de Karim Cherfi, un homme condamné à 4 reprises mais pas fiché S. Un message lié à Daesh a été retrouvé près du lieu de l'attaque. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir s'il a bénéficié de complicité. 3 de ses proches sont toujours en garde à vue. Et cet attentat a coûté la vie à un policier âgé de 37 ans. 2 autres sont blessés. En hommage à la victime, des policiers se sont rassemblés ce soir, place du Trocadéro à Paris. Les drapeaux sont en berne dans tous les commissariats et gendarmeries. Une attaque qui arrive à quelques heures de la fin de la campagne présidentielle. Elle se termine officiellement ce soir à minuit. Des candidats à l'élection ont réagi. Benoît Hamon s'est exprimé depuis Carmaux, dans le Tarn. Le candidat du PS refuse de suspendre la démocratie. Emmanuel Macron accuse ses adversaires de céder à la surenchère. Marine Le Pen parle de défaillance du gouvernement. Pour le Premier ministre Bernard Cazeneuve, la présidente du Front National exploite la peur. Donald Trump rencontre pour la première fois Antonio Guterres. Le président américain a reçu à la Maison-Blanche le secrétaire général de l'ONU. Selon le porte-parole des Nations Unies, la discussion a été très intéressante. Novak Djokovic éliminé du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Serbe a perdu en 3-7 face au Belge David Goffin.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle de ce terrorisme qui s'est imposé dans la campagne depuis hier soir 21h. Soizic Kemener, vous suivez toute la campagne présidentielle pour le journal Marianne. Mercredi, déjà, 2 hommes ont été arrêtés à Marseille, soupçonnés de préparer une attaque contre un candidat à présidentiel. On ne sait pas qui c'était, notamment quand c'est. Hier, la mort de ce policier sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous avez senti au sein des différentes familles politiques un changement justement de mentalité depuis mercredi, depuis justement l'arrestation à Marseille?
On sent que l'incertitude augmente, en fait, parce que quand on discute avec les différents responsables de formations politiques, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne savent rien. C'est-à-dire qu'on est dans une élection, on est dans un espèce de trou noir. C'est-à-dire que là, regardez, on a les derniers sondages, par exemple, on les connaît tous, on sait, Emmanuel Macron est en tête, vient Marine Le Pen, vient François Fillon, vient ensuite Jean-Luc Mélenchon. Mais ça, c'est des sondages qui ont été faits avant cet attentat. Exactement. Et qui ont été faits à peu près pendant, au moment où les Français apprenaient cette tentative d'attentat déjouée. Donc on entre dans une période en fait de 2 jours, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut simplement se référer à des matrices antérieures, c'est-à-dire que même si c'est très difficile pour cette élection, quand on essaie d'analyser une élection, on regarde ce qui s'est passé les fois précédentes. Donc qu'est-ce qu'on a comme exemple? On a l'exemple de 2002, Papivoise, vous vous souvenez, c'était exactement 2 jours avant l'élection. Donc là, on a vu qu'il y avait eu Un effet, on se souvient, Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Ensuite, on voit aussi ce qui s'est passé pour les régionales. Les régionales 2015, vous vous souvenez, évidemment, ces épouvantables attentats du 13 novembre. Quand vous discutez avec les sondeurs, ils vous expliquent qu'ils avaient fait un terrain avant, c'est-à-dire qu'ils avaient interrogé des Français avant sur leurs intentions de vote, un terrain après, donc le 13 novembre, et ils se rendaient compte qu'il y avait un effet net. Je vous, vous souvenez, le Front National était arrivé à 27,9%, si ma mémoire est bonne, en tête aux régionales. Donc voilà à quoi on peut se référer, et dans les états-majors, on peut se référer aussi qu'à ça. Alors, il y a toujours des sentiments sur le terrain, mais que valent des sentiments alors qu'on est à 3 jours de l'élection, à 2 jours de l'élection?
Justement, Jean-Pierre Pochon, il y a aussi un autre exemple. On va parler dans un instant de la campagne suspendue pour certains candidats. Il y a 5 ans, il y avait l'affaire Mohamed Merah. Également, tous les candidats avaient alors suspendu leur campagne. Et est-ce que pour vous, ça peut avoir justement un impact sur la population?
Je pense que celui qui dit qu'il n'y a pas d'impact, je ne partage pas du tout cette analyse, je pense qu'il y a un impact. Il y a un impact. Le problème, c'est de savoir de quelle nature il est, cet impact. Ça, c'est clair. Mais après un événement comme celui qui s'est passé hier, qui a été retransmis dans le monde entier, parce que ces images, elles ont fait le tour du monde, il y a un impact colossal. Et cet impact au niveau international, à part un effet miroir, il est sur la population. Et on est, vous l'avez parlé, madame, de trou noir. C'est vrai, on est dans un trou noir. Et bien fort, celui qui va dire ce qui va se passer, quel est l'impact. Mais il y a un impact. Il ne peut pas ne pas y avoir d'impact.
Xavier Delamure, vous justement, en tant que restaurateur, quand vous rencontrez différents clients, on parle beaucoup de politique, on parle également aussi, j'imagine depuis hier soir, beaucoup de sécurité, beaucoup de terrorisme. Est-ce que voilà, vous sentez que ça peut influencer dans cette campagne, ces dernières heures?
Alors moi je pense que ça peut influencer du fait que les politiques vont surfer sur ce qui s'est passé. Le Front National, Marine Le Pen, vient de dire que l'État serait défaillant, que sous sa présidence, cela n'arriverait pas. Je viens d'entendre M. Pochon, qui a l'air plutôt un grand spécialiste, en disant, à part un État totalitaire, c'est quasiment imparable, parce que ce sont des individus souvent seuls, donc il faut amener plutôt la population à réfléchir, à raisonner. Moi, je vois tous les jours, et j'étais ce midi en service dans mes restaurants, ça n'a pas, c'était blindé de touristes, etc. Ça les a pas impactés autant plus que ça, puisqu'on voit bien que dans toute l'Europe et dans le monde entier, cela peut arriver n'importe où, n'importe quand et à n'importe qui, ce qu'a dit encore Monsieur Pochon tout à l'heure, que ce soit effectivement les forces de l'ordre ou les simples citoyens. Donc je crois par contre qu'il faut amener les citoyens à réfléchir à partir de là, de savoir quel type de société ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une société totalitaire? On a vu, on pourra réfléchir, et je pose la question à Monsieur Pochon. Est-ce que le fait de la fin des RG sous Sarkozy, alors, etc., avec moins de moyens, est-ce que ça a pu avoir une incidence pour le renseignement sur ça?
Alors, on va essayer dans un instant.
Je finis là-dessus. On ne peut pas amener les citoyens à dire, il faut fermer les frontières, il faut tout faire pour on va nous protéger comme ça. Ça marchera pas.
On va en parler de ça dans un instant. Je voudrais juste qu'on l'entende, justement, parce que c'est le dernier jour, donc, de campagne, et c'est vrai que c'est assez étrange. Si vous regardiez hier soir l'émission 15 minutes pour convaincre, peut-être avez-vous vous aussi été saisi d'une étrange sensation, parler politique au moment d'un attentat, tenter de comprendre les mots de Jean Lassalle ou s'intéresser à l'ISF version Macron alors que les sirènes hurlaient dans la nuit du 8e arrondissement de Paris, des journalistes mal à l'aise, des prétendants à l'Élysée graves et un peu perdus, et certains ont décidé d'arrêter leur campagne mais ne s'interdisent pas de parler des événements comme, vous allez l'entendre successivement, Marine Le Pen, François Fillon et Emmanuel Macron.
Tout de suite, il faut mettre en œuvre l'expulsion immédiate des fichiers S étrangers, l'engagement de procédures accélérées de déchéance de nationalité pour les fichiers S binationaux et leur expulsion immédiate dans leur pays d'origine.
Notre ennemi a un nom, l'islamisme radical. Il a un visage, celui de la haine. Nous sommes en guerre. Il n'y a aucune autre alternative, c'est eux ou nous.
Le rôle premier du président de la République est, en tant que chef des armées, et garant de nos institutions, de protéger les Français. J'y suis prêt.
Voilà, Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, des déclarations qui n'ont pas vraiment été du goût du Premier ministre, un brin énervé. On écoute Bernard Cazeneuve.
Certains candidats à l'élection présidentielle ont fait ce matin le choix de l'outrance et de la division. Cette attaque est un drame. Madame Le Pen cherche à en faire une opportunité, une occasion médiocrement électorale au mépris de la vérité. François Fillon préconise la création de 10 000 postes de policiers. Comment croire sur ce sujet ? Un candidat qui, lorsqu'il était Premier ministre, en a supprimé 13 000 dans les forces de sécurité intérieure.
Le Premier ministre Bernard Cazeneuve ce matin à Matignon. Alors Sébastien Chenu, quand vous entendez le Premier ministre, Marine Le Pen récupère cet attentat ?
Non, mais écoutez, c'est quasiment indécent d'entendre Bernard Cazeneuve faire de la politique politicienne au niveau auquel il est. On est en droit d'attendre autre chose de Bernard Cazeneuve.
Lui dit que c'est Marine Le Pen qui
oui,
fait...
non, mais enfin, c'est quand même lui qui allume la mèche, qui a passé son temps à venir constater qu'il y avait des attentats et qui a désarmé la police, qui n'a pas été actif. Et ce laxisme qu'on paye aujourd'hui, car il s'agit bien de laxisme, nous sommes en train de le payer. Moi, je veux bien qu'il y ait une certaine forme d'angélisme à dire, il faut se poser les questions, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va allumer des bougies, à chanter des chansons, on va faire une quiche.
Mais je veux dire, à un moment, on réagit.
Non, mais je fais pas une quiche, par contre. Excusez-moi.
Est-ce qu'on peut se poser un moment les bonnes questions et se donner les moyens d'agir? Je veux bien qu'on reproche un certain nombre de choses à Marine Le Pen sur ce qu'elle propose. On peut en débattre. C'est la démocratie, on en débat. Mais elle, au moins, elle avance un certain nombre de propositions. Quand j'entends Emmanuel Macron dire, il va falloir s'habituer. Mais comment on peut prétendre à la fonction suprême en disant aux Français, il va falloir s'habituer, ou je n'ai pas inventé dans la nuit un plan antiterrorisme.
Si c'est juste ça,
protéger les Français, il faut changer de métier.
Monsieur Chenu, déjà, je fais pas des quiches, mais par contre, vous dites des mensonges. Vous venez dire que sous Cazeneuve, ils ont diminué le nombre de gens qui travaillaient dans la sécurité,
oui,
dans le renseignement intérieur. Monsieur Pochon, qui connaît bien le sujet, vous dira que c'est le contraire, ils ont renforcé. Non. Je pense qu'ils ont renforcé.
Ils ont commencé par les diminuer.
Sous Sarkozy, mais eux, ils n'ont pas arrêté de renforcer depuis 5 ans.
On va avoir les chiffres avec vous, Monsieur Bouchon. Dans un instant, je laisse un peu de suspense. L'info à 20h20, Yasmina Adila.
Le tireur des Champs-Élysées n'était pas fiché S, confirmation du procureur de la République de Paris. François Molins confirme également l'identité du terroriste. Il s'agit d'un Français âgé de 39 ans, connu des services de police, condamné à 4 reprises mais pas référencé comme radicalisé. Un fusil à pompe, 2 couteaux de cuisine ou encore un sécateur ont été retrouvés dans sa voiture. Les enquêteurs cherchent à savoir comment il s'est procuré ces armes. Ils recherchent également d'éventuels complices. Cet attentat revendiqué par Daesh a coûté la vie à un policier. 2 autres sont blessés. Et dans ce contexte de menace terroriste, les préfectures donnent des consignes de sécurité pour le premier tour de la présidentielle de dimanche. Les autorités appellent notamment à ne pas créer de files d'attente trop longues. Plus de 50 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Un accord en vue en Guyane. Le collectif de grévistes et le gouvernement sont en passe de signer un texte. Les barrages seront levés dès la signature de cet accord. La Guyane est paralysée par un mouvement social de grande ampleur. Les grévistes demandent plus de moyens au gouvernement pour le territoire. L'incendie est circonscrit en Gironde. 300 policiers étaient mobilisés pour éteindre un énorme incendie. Plus de 1200 hectares de pins ont été détruits dans le Médoc. Une trentaine de personnes vivant à proximité ont été évacuées hier par précaution. Monaco affrontera la Juventus Turin en demi-finale de la Ligue des Champions, match qui se jouera début mai. Et pour les demi-finales de la Ligue Europa, Lyon rencontrera l'Ajax Amsterdam.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de l'impact de cet attentat qui s'est déroulé donc hier à Paris sur les Champs-Élysées, tuant un policier en fonction donc aux Champs-Élysées. À propos de ces propositions, Jean-Pierre Pochon, vous êtes ancien donc directeur donc des renseignements généraux. Cette fois-ci, j'ai bien retrouvé ma fiche. Quand vous entendez les différents candidats, quand on dit aujourd'hui, il faut absolument rebâtir un maillage finalement territorial comme celui-ci a pu être détruit ou démantelé sous Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est ça une partie de la solution pour un bon renseignement?
Oui, c'est une partie de la solution, mais c'est pas. Faut pas imaginer que c'est la solution miracle. En plus, bon, si vous voulez, moi je suis pas un politique tout de suite. Mon job c'était de servir la France. Donc droite gauche, importe, j'ai servi. Mais franchement, aujourd'hui, si vous voulez, la suppression des renseignements généraux, Peut-être que c'était, une erreur ou une faute, ça dépend comment on le voit. Mais c'est vrai que pour répondre à votre question, le maillage est très important. Pour faire du renseignement, il faut être le plus près possible du terrain. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'identifier des signes qui sont imperceptibles, de les additionner, de les analyser et d'en tirer une analyse qui permette de penser que cet individu est susceptible de passer à l'action. Après, travailler sur l'individu, travailler sur un groupe, le suivre pendant des mois et puis voir s'il va basculer. Mais c'est pas, il n'y a pas que ça.
Mais quand justement vous entendez des propositions, comme par exemple vient d'en parler Sébastien Chenu, par exemple aussi bien le Front National, François Fillon, Emmanuel Macron, est-ce que pour vous il y a des candidats qui ont des bonnes solutions?
Si vous voulez, on a parlé, je crois que c'est Monsieur Macron qui a parlé de la création d'un comité au niveau du président de la République.
Voilà, aujourd'hui, oui.
Personnellement, mais c'est un avis personnel, je pense que rajouter encore une superstructure à toutes les structures qui existent dans le dispositif français de lutte antiterroriste, et surtout en le rapprochant du président de la République, c'est-à-dire en responsabilisant le président de la République directement, et en parlant de termes opérationnels, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait incompréhensible.
Alors, Éric Scholl, justement, quand on entend, par exemple, Marine Le Pen qui parle d'expulser des fichiers S, aujourd'hui, est-ce que finalement, c'est cette même politique qu'on voit, qu'on retrouve autour finalement des pays qui ont été frappés récemment, c'est-à-dire la Suède, l'Allemagne, est-ce qu'on est dans la même recherche de solutions?
Il y a depuis maintenant 2 ans, on peut dire, une tentative quand même d'accélérer au niveau européen la lutte contre le terrorisme. Et d'ailleurs, il y a quand même des textes qui ont été adoptés, même si on peut trouver que ça va encore trop doucement. C'est très compliqué d'accepter pour des pays de mettre en commun, de partager ensemble des renseignements. Mais je crois que depuis maintenant, en tout cas depuis 2015, on peut dire qu'il y a eu des avancées assez fortes. Et je sais pas si
je suis un peu en contre. Je partage pas votre analyse parce que. Dire que les pays ne communiquent pas, c'est une erreur. C'est tout à fait le contraire. Il faut bien savoir que depuis 2001, depuis les attentats de 2001, la coopération internationale est totalement transcendée et boostée. Et aucun pays ne prendra le risque de ne pas communiquer des informations. Il peut y avoir quelques dysfonctionnements.
Mais
c'est clair.
Du temps. Par exemple, le PNR, les échanges.
Ah non, mais ça c'est pas un problème de renseignement.
Alors,
c'est un problème politique.
Alors, c'est revenu, c'est vrai, ce sujet. Marine Le Pen, au Zénith, a parlé. Elle a sorti une phrase, c'est vrai, Sébastien Chenu, qu'on n'a pas très bien compris. Quand elle a dit, avec moi, il n'y aurait pas eu de Mohamed Merah, il n'y aurait pas eu de frère Kouachi. Ces gens-là auraient été expulsés. Le seul problème, c'est qu'il s'agit de Français. Comment ça se passe, en fait?
Oui, elle aurait appliqué un des articles qui est prévu par les textes, qui est l'intelligence avec l'ennemi. Lorsqu'un Français est supposé faire preuve d'intelligence avec l'ennemi, eh bien, il est traduit devant les tribunaux qui prennent des sanctions. Et puis, elle se serait donné les moyens que ces gens-là, lorsqu'ils arrivent de l'étranger, par exemple, comme un certain nombre
mais
qui ont quasiment...
Mais l'ennemi, c'est quoi? C'est quand vous êtes français, c'est quoi là? L'ennemi,
l'intelligence avec l'ennemi, c'est la nation française, monsieur. Quand vous complotez
non, bien sûr, non, mais vous êtes,
contre
là,
la nation française...
C'est quel ennemi, là?
Comment ça,
c'est quel ennemi? Ça veut dire, non, l'ennemi, l'identification de cet ennemi, c'est lequel?
Ben, l'ennemi, c'est celui qui complote contre la nation française,
oui,
ça me semble assez clair.
Il a une idéologie, cet ennemi.
Oui, ben, bien sûr. Ben, ce sont tous ces gens qui sont radicalisés, qui sont aujourd'hui à la solde d'organisations terroristes, et qui prêtent d'ailleurs serment. Mais c'est se donner les moyens de lutter contre le terrorisme.
Et on les renvoie où, en fait? On les envoie où, en fait?
Ah, mais on passe des conventions avec un certain nombre de pays lorsqu'ils sont étrangers.
Oui, et non, mais les Français, on les envoie où?
Les Français, écoutez, on les défère devant les tribunaux, et puis on les enferme s'ils ont une intelligence avec l'ennemi.
Là où ils sont radicalisés en prison, en fait.
Mais écoutez, c'est pour ça qu'on souhaite qu'il y ait plus de place aussi en prison. C'est une des réponses. Je rejoins, monsieur, la réponse n'est pas uniforme. Elle est sur plusieurs leviers. La justice, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la diplomatie. On a plusieurs leviers sur lesquels une politique doit être menée. Les politiques qui ont été menées jusqu'à présent sont en échec sur toutes ces dimensions. Nous proposons de faire exactement l'inverse de ce qui a été mené.
Justement.
On peut nous en faire le reproche, mais nous proposons des choix qui sont forts, qui sont cohérents et qui protégeront les Français.
Mais ce que vous dites est en train de prouver, d'ailleurs ce qu'on entend beaucoup depuis le début de la semaine, c'est qu'en fait, Marine Le Pen comme François Fillon avaient bâti leur campagne dans un contexte terroriste et espéraient que ce sujet vienne dans la campagne. Je ne dis pas qu'ils souhaitaient des attentats, attention, qu'ils espéraient en tout cas qu'on parle énormément de ce sujet, qu'on l'aborde dans la campagne. Or, qu'est-ce qui se passe? Depuis hier soir, c'est le cas, donc on assiste à un précipité de propositions qui sont pour certaines fortement contestables.
On connaît nos propositions depuis très longtemps.
Très rapidement entre hier soir et ce matin, et c'est pour ça qu'on assiste à cette espèce de course à l'échalote entre François Fillon et Marine Le Pen pour s'installer sur le sujet parce qu'il reste très peu de temps, et c'est pour ça qu'on est dans ce moment politique particulier.
On va en parler dans un instant. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclaircissements à Jean-Pierre Pochon d'être passé ce soir aux informés de France Info. Promis, la prochaine fois, je dirai entièrement voilà votre titre en tout cas. Merci beaucoup d'être passé ce soir. Merci. On va continuer justement à parler de cette campagne présidentielle, son dernier jour, ses dernières heures même, hein, puisque ça se termine à minuit. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Et si appeler depuis et vers l'étranger ne coûtait pas plus cher?
Et moi, avec mon forfait Pro Orange, que j'appelle Londres depuis le bureau ou mon équipe depuis Londres, ça ne me coûte pas plus cher.
Ah, ok. Bah, moi, en plus, dans mon forfait Pro Orange, j'ai le Brésil, le Maroc...
Enfin, peut-être, mais moi, en plus, je peux utiliser mes 40 gigas partout en Europe, au Canada et aux États-Unis.
Et moi, dans les DOM.
Avec le forfait Performance Pro Intense Travel, votre forfait Orange devient aussi international que votre business. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité. Plus de détails sur orangepro.fr.
Le festival Jazz sous les pommiers. Une semaine de musique live, de création, de concerts inédits et de rencontres musicales. Pat Metheny, Youssouna, Yann Garbarek et Trilog Bourtou, Jean-Luc Ponty, Birelli Lagraine et Kyle Eastwood, Dafer Youssef, Oumou Sangaré, mais aussi Gilles Peterson, Hiromi et Edmar Castaneda, Erel Besson, Fred Hersch, Anne Passeo, Sylvain Rifflet, Alani. 36e édition de Jazz sous les pommiers, du 20 au 27 mai à Coutances en Normandie. Renseignements jazzsouslespommiers.com avec la région Normandie. France Info Météo avec Gauthier. Fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Toujours du soleil au sud, des nuages au nord. Ils seront très nombreux le matin entre la Normandie, le bassin parisien, le Nord-Pas-de-Calais, le Nord-Est, avec quelques pluies près des frontières du Nord. L'après-midi, ça restera encombré et humide sur la Picardie, la Champagne, la Lorraine, l'Alsace. On retrouvera quelques éclaircies vers la frontière belge. Même chose de la Normandie à la Franche-Comté. Il fera 2 à 8 degrés le matin, un peu moins dans l'Est et le Centre, moins 2 à 2 degrés. L'après-midi, 13 à 20 degrés. En allant vers l'Ouest et le Sud, encore du très beau temps. Un vent sensible pour le sud-est, des températures encore un peu froides le matin, moins 2 à 5 degrés, un peu plus quand même en bord de mer, et puis l'après-midi de la douceur avec 18 à 25 degrés.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info à 20h30, c'est Noémie Bonin, bonsoir.
Bonsoir à tous. L'assaillant d'hier qui a tué un policier sur les Champs-Élysées à Paris était donc un récidiviste de l'attaque des forces de l'ordre, c'est ce que confirme le procureur de Paris. C'est un délinquant violent mais pas fiché S. Ce Français de 39 ans n'était pas connu pour radicalisation. Il n'y a pas eu de signe pendant sa détention. Trois proches présents chez lui pendant les perquisitions ont été placés en garde à vue. Après cette nouvelle attaque visant des policiers, un rassemblement est organisé ce soir. Les forces de l'ordre souhaitent rendre hommage à leurs collègues. Ça se passe au Trocadéro à Paris où on vous retrouve, Grégoire Le Callo, en direct pour France Info. Ça commence à peine.
Oui, effectivement, quelques dizaines de policiers pour l'instant sont rassemblés debout sur le parvis du Trocadéro. Ce rassemblement qui va commencer à 20h30. Les policiers qui y participent arrivent en fait, hein, les uns après les autres. Les mines sont plutôt graves, hein, on s'en doute. Ce rassemblement est coordonné par le mouvement des policiers en colère avec le soutien des syndicats de police. Xavier Juglet, lui, le policier qui a été abattu hier, était lui-même membre du syndicat Alliance et de l'association de policiers et gendarmes LGBT Flag. C'était un policier impliqué dans la vie des organisations collectives de sa profession. Sa mort a beaucoup marqué et déjà ce matin, un premier hommage lui a été rendu sur les lieux de sa mort avec un dépôt de gerbes de fleurs. Et puis demain, un autre rassemblement aura lieu, cette fois avec des femmes, des filles et des mères de policiers qui viendront elles aussi dire leur tristesse, leur colère et leur angoisse.
Et Grégoire Le Callo en direct du Trocadéro pour France Info avec Arthur Gerbeau. Difficile de prédire bien sûr l'impact qu'aura cette attaque sur l'élection présidentielle. La plupart des candidats s'expriment sur le terrorisme depuis hier. Mais ce soir à minuit, la campagne officielle s'arrête. Plus de meetings, d'interviews politiques, plus de sondages non plus jusqu'à dimanche 20h. Une terrible attaque en Afghanistan aujourd'hui. Elle a été menée contre une base militaire afghane. Le premier bilan fait état d'une cinquantaine de morts parmi les soldats. Une grande soirée d'hommage organisée pour rendre hommage à Prince un an tout juste après sa mort. Des concerts, des tables rondes, tout un tas de festivités se déroulent à Minneapolis. Les ponts, les stades et les autres monuments emblématiques de la ville sont illuminés en violet, sa couleur fétiche, jusqu'à dimanche. L'incendie en Gironde est stabilisé mais pas encore fixé selon les pompiers. Plus de 1100 hectares de pins sont détruits dans le secteur de Sissac-Médoc au nord de Bordeaux. Les secours restent mobilisés. En foot, si Marseille veut rester dans le coup, il faut gagner à Nancy ce soir. C'est le match d'ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Ça commence dans un quart d'heure. L'OM 6e veut maintenir la pression sur Bordeaux 5e. Il est 20h33 et vous retrouvez les informés avec Jean-Mathieu Pernin.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Un dernier verre de Banga pour tenir jusqu'à minuit. Et les revoilà à petite foulée. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Eric Scholl, directeur de Courrier International, Soizic Kemener de Marianne, le restaurateur Xavier de Namur, et également Sébastien Chenu, conseiller régional des Hauts-de-France, délégué national du Rassemblement Bleu Marine, soutien de Marine Le Pen. Encore un petit mot justement à propos de cette émission hier soir et cet attentat qui est survenu au même moment. Les candidats, certains candidats ont décidé de suspendre leur campagne. C'était le cas de Marine Le Pen, de François Fillon et d'Emmanuel Macron. Soizic Kemener, c'est un geste véritablement réfléchi puisque certains candidats comme Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, eux, continuent. Et certains, par exemple, alors je vais citer François Asselineau, puisque ce soir je cite tous les noms. François Asselineau a dit « Arrêter la campagne, c'est donner raison au terrorisme ».
Je crois qu'à partir du moment, en fait, ce qui est très compliqué dans cette histoire, c'est qu'à partir du moment où il y en a un qui arrête la campagne, souvenez-vous de l'affaire Mohamed Merah, c'était exactement la même chose, ça devient très compliqué pour les autres de justifier. Par exemple, quand vous avez l'argument d'Emmanuel Macron qui dit « je ne fais pas meeting ce soir parce que je ne veux pas que des forces de l'ordre consacrent leur temps et leur énergie à sécuriser les meetings », on sait que les meetings se font sous haute sécurité, c'était le cas notamment à Bercy, je peux en parler parce que j'y étais chez Emmanuel Macron lundi avec chien renifleur autour des caméras, etc., le genre de choses qu'on ne voit jamais d'habitude dans les meetings, en tout cas dans les autres campagnes électorales. Donc cet argument, on peut l'entendre. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'à partir du moment où il y en a un qui arrête, celui qui n'arrête pas obligatoirement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne rend pas hommage aux policiers, il fait campagne jusqu'au bout, c'est très très compliqué de se positionner vis-à-vis de ça. Donc on voit bien ce qui s'est passé. Il y en a trois qui ont décidé d'arrêter, c'est les trois qui espèrent être en tête, c'est les trois qui veulent jouer, qui sont dans le mouchoir de poche, qui veulent jouer le régalien à tout prix, pour plein de raisons. On voit François Fillon, il est ancien Premier ministre. Marine Le Pen, c'est des thèmes qu'elle espère pousser dans la campagne. Et puis Emmanuel Macron, il n'a pas cette expérience-là. Il espère être renforcé par la présence de Jean-Yves Le Drian à ses côtés et puis de l'ancien patron du RAID. Donc chacun a quelque chose à jouer. Donc c'est éminemment politique. Et évidemment, c'est politicien de faire ça, mais c'est difficile à partir du moment où un des deux autres l'a fait, de ne pas le suivre.
C'est ça, Eric Scholl, finalement. C'est un phénomène subisme.
En fait, on n'arrête jamais vraiment une campagne. C'est-à-dire qu'on l'arrête, mais on continue à faire de la politique.
Ouais,
et vous savez, l'année dernière, au moment de la campagne du Brexit en Grande-Bretagne, il y a eu cet assassinat de cette députée, Jo Cox, députée du Labour. Il y avait eu un arrêt de la campagne pendant 3-4 jours. Et il y avait eu d'ailleurs les mêmes types de questions qu'on se pose là. Quelle façon ce drame allait influencer ou pas l'élection? D'ailleurs, il y avait même eu un journal qui avait titré l'effet de Jo.
C'était une députée qui était pour que l'Angleterre reste dans l'Europe.
Au Labour, oui. Elle a été assassinée par un ultranationaliste. Et on s'était dit à ce moment-là, on était certains, enfin, les journaux estimaient à ce moment-là que ça allait avoir un impact pour redresser, pour aller vers, pour que la Grande-Bretagne reste à l'intérieur de l'Union européenne. On a vu que ça n'a pas été le cas. Il y a eu un autre attentat très important en 2004 en Espagne et qui est intervenu à 3 jours de l'élection législative. Exactement. Qui avait fait pratiquement 190 morts. Et à ce moment-là, on s'est bien rendu compte que la politique, parce que le Premier ministre conservateur de l'époque a eu cette phrase, il a fait de la politique en expliquant que c'était que la responsabilité incombait au terrorisme basque, ce qui était absolument pas le cas, et il l'a payé dans les urnes 3 jours plus tard, puisque c'est le gouvernement Zapatero, enfin c'est les socialistes avec Zapatero qui ont été élus.
Et c'était finalement Al-Qaïda en effet qui avait commis cet attentat. Xavier de Namur, pour vous, que des candidats arrêtent leur campagne, ça vous paraît normal ou, comme disent certains, c'est montrer la démocratie, aller plus loin, montrer que on ne cède pas?
Non, mais je pense que effectivement, on peut marquer par rapport à la nation, de dire des choses pour les policiers qui ont été atteints, mais je pense pas qu'il faille arrêter. C'est vraiment, moi, je rejoins les candidats qui ont dit on va continuer, sinon c'est céder à chaque fois qu'il y a le moindre phénomène attentat terroriste, on va tout arrêter, et c'est ce que veulent les terroristes. Donc il faut naturellement continuer et continuer d'aborder les thèmes, non pas simplement que de sécurité et tout, parce que je pense que ça fait plaisir à certains candidats, mais je pense qu'il faut montrer que les thèmes qui sont plus d'économie, de social, de culture, c'est pas nous renfermer. C'est ça qui va nous permettre d'éviter sûrement ce genre de choses. Parce que ce qu'on parlait tout à l'heure sur les échanges d'informations en Europe, c'est pas en fermant les frontières qu'on va avoir des informations sur ces cas. Et les pays qui sont renfermés, je parlerai par exemple la Russie, ça n'empêche pas qu'il y ait des attentats en Russie. Mmh. Vous allez en Chine, vous allez dans tous les pays qui sont un peu, je dirais, où la liberté, on parlait du Front National, elle veut défendre, il parle de la France, de pays de liberté, les libertés, il faut ouvrir les frontières, il faut être, pas interdire.
Justement, Sébastien Chenu, juste avant de répondre, pour vous, Marine Le Pen a eu raison de suspendre sa campagne?
Oui, je crois que c'était bien de pouvoir marquer et puis d'avoir un moment de gravité. Avant de parler de fermer les frontières, il faudrait qu'elles existent. Il faudrait qu'il y en ait. Une frontière, vous savez, c'est pas des barbelés. Hein. Une frontière, on a vécu avec pendant de très longues années. 95% des pays du monde vivent avec des frontières. Ça sert simplement à contrôler qui rentre et qui sort. C'est pas des barbelés, c'est pas des murs. Et d'ailleurs, vous avez bien noté que moins il y a de murs à l'extérieur d'un pays, de frontières à l'extérieur d'un pays, plus il y en a à l'intérieur. Les gens se barricadent, montent des barricades pour se protéger dans leur quartier, dans leur maison, etc. Donc vous savez, les frontières, c'est simplement la porte d'entrée et la porte de sortie dans un pays.
Vous avez bien vu, Sébastien Chenu, que ça n'empêche pas, comme en Grande-Bretagne. Comme en Grande-Bretagne, ça n'empêche pas. Ils sont pas dans l'espace Schengen.
Être un outil de logique et de gestion des flux des populations assez opportun, surtout en période de terrorisme. Donc voilà, c'est rien de plus, mais c'est déjà énorme. Sur le reste, ça a permis de parler de ce sujet de l'insécurité. On n'en parle pas pour le plaisir de ce sujet du terrorisme. C'est un sujet qui aujourd'hui fait irruption dans la campagne, dont on n'a pas parlé avant parce que finalement, peut-être que...
Parce qu'on a beaucoup parlé des affaires qui concernaient à la fois François Fillon et le Front National.
Mais peut-être qu'on aurait été bien avisé de parler de la sécurité, d'aller au fond des propositions des uns et des autres, parce que qu'est-ce qu'on voit? Que François Fillon, en réalité, il n'a aucune crédibilité sur le sujet, il a supprimé des postes de force de l'ordre chaque fois qu'il a été au gouvernement. Marine Le Pen, elle a toujours le même discours, on peut lui reconnaître ça, elle a cette cohérence de discours qui est toujours la même offre politique en matière de sécurité. Emmanuel Macron, le roi est nu, nous a dévoilé hier qu'il avait zéro idée dans la lutte contre le terrorisme. Donc peut-être que ce débat, il aurait été pertinent de le tenir pendant la campagne, car il est au centre aujourd'hui de notre vie, malheureusement.
Mais vous savez que cette campagne a été polluée, elle a été polluée par les affaires qui n'ont pas été inventées, qui ont surgi dans la campagne parce qu'elles ont été découvertes à ce moment-là.
Je vous dis qu'on aurait pu parler de plein de sujets.
À la fois pour le Front National, on a beaucoup parlé, et François Fillon, et on a fait notre travail tout simplement, et on a beaucoup parlé de ce sujet-là parce que c'est le sujet de la moralisation de la vie politique et de la confiance dans la vie politique, c'est aussi ce qui fait qu'un responsable politique qui prend des décisions importantes dans des affaires aussi importantes que le terrorisme est écouté et suivi par les Français.
Mais vous n'avez pas voulu parler du terrorisme, il fait irruption d'une façon tragique dans cette campagne.
Non, on n'a pas décidé.
Savez, on a suivi finalement l'agenda que vous nous avez fixé aussi. Voilà, tout simplement. Allez, l'info à 20h40, Yasmina Adila.
Les précisions ce soir de François Molins. Le procureur de Paris a donné en fin de journée une conférence de presse. L'homme qui a tué hier un policier et blessé deux autres est bien Karim Cherfi. Il a tiré sur les forces de l'ordre avec une Kalachnikov, condamné à 4 reprises mais pas fiché S. Un message lié à Daesh a été retrouvé près du corps du terroriste. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir s'il a bénéficié de complicité. 3 de ses proches sont toujours en garde à vue. Et au lendemain de cette attaque visant des policiers, certains d'entre eux sont réunis en ce moment, place du Trocadéro à Paris. Ils veulent rendre hommage aux policiers tués. 2 autres ont été blessés, dont 1 grièvement. Celui-ci a reçu la visite de François Hollande et Bernard Cazeneuve ce matin à l'hôpital. Une touriste étrangère a également été blessée dans cette attaque. Le tribunal administratif de Melun confirme la fermeture de la mosquée de Torcy en Seine-et-Marne. Il déboute la demande de l'association qui gère ce lieu de culte qui demandait sa réouverture. La mosquée est fermée pour des prêches hostiles aux lois républicaines. La piste terroriste écartée en Allemagne après l'attaque qui a touché le bus de l'équipe de foot de Dortmund juste avant le quart de finale contre Monaco en Ligue des Champions. C'était il y a 10 jours. Un homme a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir voulu spéculer sur une baisse du prix des actions du club allemand.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, est-ce que cette campagne, finalement ces dernières heures de campagne sera perturbée par l'acte terroriste d'hier soir? En tout cas, il y a une chose, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission 15 minutes pour convaincre, qui a été assez étonnante, puisque François Fillon a assuré, quand il est passé pour ces 15 minutes, qu'il y avait en même temps que l'attaque sur les Champs-Élysées, d'autres opérations de police en cours dans la capitale, contrairement à ce que disait la préfecture de police, notamment sur Twitter. Alors on pouvait penser que le candidat de la droite s'était simplement un peu emballé, pris par l'émotion. Eh bien non, voilà ce qu'il a déclaré ce matin à un journaliste de l'émission Quotidien, on l'écoute.
Monsieur Fillon, hier vous avez annoncé d'autres attaques à Paris sur France 2, est-ce que vous faites dans le fake news?
Elles existent, vous regardez les rapports de police, vous verrez, elles existent, elles ont existé.
Il y a eu d'autres attaques hier soir?
Il y a eu d'autres attaques hier soir.
Où ça?
Voilà, François Fillon interrogé par Quotidien en même temps, ça paraît quand même, Soïc Kemener, assez étonnant quand on voit François Fillon quand même là. On le voit vraiment très sûr de lui. Il n'y en a pas eu d'autres attaques et pourtant il le dit.
Oui, et puis c'est pas la première fois dans cette campagne. Vous vous souvenez, qui soutient un mordicus, quelque chose qui n'est pas avéré. C'est-à-dire, vous vous souvenez, il avait dit sur les médias, dans les médias, sur les chaînes de télévision, on a annoncé le suicide de ma femme, Pénélope. On a beau chercher, on n'a jamais retrouvé la trace de cette information qu'il aurait vue sur une chaîne de télévision. Et là, c'est un peu la même chose. Alors, ils ont fait une reconstruction a posteriori. C'est que maintenant, ils sortent un rapport de police qui prouve qu'un SDF... qui était probablement pris d'ivresse, a agressé un militaire de l'opération Sentinelle dans une station de métro. Hein, c'est un peu le colonel Moutarde, hein, vous connaissez le Cluedo. Donc il y a une reconstitution aujourd'hui de ce qu'a énoncé François Fillon. Mais François Fillon, il faut voir à quel moment il l'annonce. C'est-à-dire qu'il l'annonce quand il arrive sur le plateau de l'émission. C'est ça qui est très très troublant. Et on sent que même s'il annonce quelque chose de faux, il tient mordicus. Hein, c'est sa ligne de conduite, c'est jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, je dis quelque chose qui n'est pas vrai.
Xavier de Namur, vous, quand vous voyez finalement aujourd'hui François Fillon, là, quand même ça, cette réaction qui paraît assez étonnante, il a pu se tromper, voilà, c'est pris peut-être par l'émotion, mais pourquoi réitérer derrière?
C'est très compliqué apparemment pour les politiques de dire qu'ils se sont plantés alors qu'ils se plantent la plupart du temps. Le truc, c'est que effectivement, on parle de sécurité dans cette campagne présidentielle, surtout à la fin, parce que c'est, on l'a vu, je sais pas si vous aviez vu ce film Les Nouveaux Chiens de Garde, c'est vraiment un sujet qui va permettre de faire oublier tout le reste et puis de donner le pouvoir à ceux qui prônent, je dirais, plus de sécurité, plus de garantie pour les citoyens d'être safe, alors que je pense pas qu'à la sortie on soit plus safe quand on a je dirais des gens qui prônent d'enfermer tout le monde ou de contrôler tout le monde. Je pense pas que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des démocraties qui fonctionnent. On le voit dans le monde, la plupart du temps, tous ces pays-là en fait renforcent le clivage des gens. C'est donc ça a été monté, ce clivage est monté sous Sarkozy. On a en fait même une partie sous Hollande a monté de climat insurrectionnel parce qu'il a fait le contraire de ce qu'il a dit. Encore une fois, des mensonges de politique. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un grand risque d'aller vers plus qu'au-delà du clivage, un vraiment risque insurrectionnel avec des propositions. Ce que fait par exemple le Front National.
Alors justement, ça on va en parler, puisqu'on va parler, il nous reste 15 minutes pour résumer un peu la présidentielle 2017. Alors c'est pas des plus simples, hein. Donc on va essayer de le faire avec le portrait robot idéal. C'est une personne anti-système qui aime bien les péniches et les hologrammes, qui veut fermer les frontières tout en étant d'accord avec tout le monde, qui pourrait être tentée par un revenu universel, sauf que les fonctionnaires sont trop payés et qu'on n'a pas d'immunité ouvrière. Voilà légèrement schématisé la présidentielle française 2017 qui marquera l'histoire par son contexte, ses retournements, ses interrogations. À minuit, les candidats n'auront plus le droit de s'exprimer avant dimanche 20h. Compliqué donc pour nous de passer tout le monde avant 21h, même en chanson. Hein, voilà, on a essayé, mais on n'a pas trouvé. Sébastien, je suis venu pour vous, donc vous soutenez Marine Le Pen. Pourquoi cette campagne est-ce qu'elle a été folle d'ailleurs, comme on le dit? Est-ce que c'est ce mot pour vous, est-ce que ça correspond à cette campagne présidentielle 2017?
Non, cette campagne, elle est différente des autres, mais chaque campagne est unique, chaque campagne a ses particularités, chaque campagne a ses surprises. Elle est différente des autres, mais le contexte est différent, on le voit bien, les acteurs sont différents.
Voilà, c'est ça, c'est
un président de la République qui ne se représente pas, ça change d'emblée toutes les équilibres d'une campagne, donc elle est particulière. On n'a pas pu beaucoup parler du fond, mais peut-être que ça arrangeait beaucoup de monde. Il y avait des candidats qui ont eu du mal à accoucher d'un programme, il y a des candidats qui ont un programme, je pense à Monsieur Fillon, disait il y a un an, enfermer les fichiers, ça serait stupide. Il a dit exactement l'inverse aujourd'hui, il est complètement paumé. D'ailleurs, ça rappelle un peu les nouvelles fictives qu'il propage matin, midi et soir. Il n'y a pas que les nouvelles qui sont fictives, visiblement, dans sa campagne, d'ailleurs. Mais voilà, on n'a pas pu aller peut-être très au-delà du débat de forme. Les candidats se sont exprimés très peu de temps, en réalité, dans les débats. 15 minutes dans le débat à 11. Oui. 15 minutes hier sur France Télévisions. Ce sont des temps réduits quand on a la prétention de vouloir diriger la France, des temps réduits pour exprimer ce qu'on compte faire pour la France et les Français. Et oui, nous, contrairement à ce que disait monsieur
De Namur,
nous sommes favorables à plus de sécurité, mais nous l'assumons.
Alors justement, Éric Scholl, ce qui est assez étonnant, alors bien sûr peut-être les acteurs eux-mêmes n'ont pas peut-être pris conscience avec le recul que ça nous paraissait peut-être un peu fou cette campagne, vu de l'étranger, en tout cas ça fait parler, énormément parler, et quel que soit le pays, tout le monde parle de cette campagne présidentielle. Hein.
Oui, c'est incroyable. Alors chaque élection française intéresse, mais celle-ci largement plus que toutes les autres passées. Et sans doute parce que il y a un enjeu vu de l'étranger qu'on ressent peut-être moins d'ailleurs dans les discussions françaises, c'est l'enjeu notamment européen. Quand on voit aujourd'hui, et pratiquement tous les journaux s'intéressent à ça, s'intéressent au score possible de Marine Le Pen, s'intéressent depuis en particulier 15 jours à Jean-Luc Mélenchon, parce que ils prônent la sortie de l'Union européenne. Et donc c'est une
interrogation. Non, pas monsieur Mélenchon. Enfin,
il prône, si vous voulez.
C'est très bien ce qu'il propose sur
Ils veulent remettre en cause l'actuelle Union européenne. Et donc, on a vu ce qui s'est passé pour le Brexit, on a vu ce qui s'est passé avec l'élection surprise de Donald Trump, et toute la presse, et en particulier la presse européenne, a les yeux rivés sur la France en se disant « La France est malade, il faut voir la une de Vie Économie cette semaine. Alors, zut, qu'est-ce qui se passe en France ?» Cette élection est dangereuse. Donc, ils parlent d'une France qui est malade, d'une France qui est en révolte, d'une jeunesse française qui a mal... Le Washington Post, toute la presse allemande, est très inquiet du scrutin de dimanche. Sans doute d'ailleurs presque plus inquiet, je dirais, que la presse, que les spectateurs, que les observateurs français, parce que ils voient bien qu'il y a en jeu peut-être, si vous voulez, un tournant dans l'Union européenne et la fin de l'Union européenne telle qu'on la connaît. Ça, je crois, qui a largement mobilisé, avec un personnage qui occupe largement toutes les unes des journaux étrangers, c'est Marine Le Pen.
Et alors, juste une chose, vous nous disiez la semaine dernière, parce que nous recevions à votre place Sébastien Chenu, un des porte-parole du NPA, que c'était Philippe Poutou aussi, Éric Scholl.
Ah oui,
qui avait animé.
Si vous voulez, il y a des candidats qui ont marqué. Alors ça, je dirais que c'est l'intérêt de la presse étrangère pour notre façon de faire de la politique, et notamment les joutes oratoires. Et alors donc, il y a un personnage qui avait décollé au moment du débat, c'est Poutou, la Poutoumania, qu'on a revu dans le New York Times, dans le Washington Post. Oui, avec des articles, surtout sur au fond la façon dont il a réussi à surfer sur le débat et à remporter un petit peu le morceau en termes d'image.
Alors, Soïd Kemener, je veux juste vous demander, vous, un avis personnel, vraiment en dehors de vos notes même, comment vous, en tant que journaliste politique, ça fait... un an, deux ans, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dessus. Comment vous l'avez vécu, vous, c'est pas terminé, bien sûr, mais là, c'est une campagne de premier tour. Comment vous l'avez vécu, vous?
Un robot mixeur. Vous voyez, vous prenez, je sais pas si vous faites de la cuisine, vous prenez le robot mixeur, alors vous mettez deux primaires, vous mettez effectivement un président qui se représente pas, vous mettez le contexte international que vient de très bien de décrire Eric, vous appuyez sur le bouton et puis vous savez pas très bien quel gâteau vous allez parvenir à la fin. C'est ça.
Vous l'avez trouvée passionnante, intéressante, parfois effrayante, enfin voilà, est-ce qu'il y a un...
Je l'ai trouvée acide. C'est-à-dire qu'il y avait acide et souvent amer. C'est-à-dire qu'il y avait déjà de ça dans la campagne de 2012. Moi, j'avais suivi la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, dans un contexte très particulier. Alors, je ne veux pas être corporatrice, mais à la fin, les journalistes étaient protégés parce qu'il y avait, une espèce de petite musique, de très grande musique, d'ailleurs anti-média qui montait. Là, la musique anti-média, elle a commencé dès le début, donc ça a été net, ça a été clair. Musique anti-juge, surtout.
Oui,
propos aussi anti-fonctionnaire de Marine Le Pen. Il y a eu énormément de moments où il y a assez acide, assez amer.
On revient justement sur cette campagne. Dans un instant, l'info à 20h50. 50, Yasmina Adila.
Le tireur des Champs-Élysées n'était pas fiché S, confirmation du procureur de la République de Paris. François Molins confirme également l'identité du terroriste. Il s'agit d'un Français âgé de 39 ans, connu des services de police, condamné à 4 reprises mais pas référencé comme radicalisé. Un fusil à pompe, 2 couteaux de cuisine ou encore un sécateur ont été retrouvés dans sa voiture. Les enquêteurs cherchent à savoir comment il s'est procuré ces armes. Ils recherchent également d'éventuels complices. Cette attaque revendiquée par Daesh a coûté la vie à un policier, 2 autres sont blessés. Anne Hidalgo veut organiser une action symbolique sur les Champs-Élysées. Elle se tiendra la semaine prochaine. La maire de Paris parle de marquer la confiance dans le tourisme et la sécurité. Elle craint que les images de l'avenue frappée par un attentat soient, je cite, « extrêmement préjudiciables à la vitalité de la ville ». L'autoroute A7 fermée pendant près de 2 heures. Un carambolage s'est produit au sud de Valence. Bilan, 1 mort et 5 blessés. 7 voitures sont impliquées dans cet accident. Les feux de forêt en Gironde sont circonscrits. 300 soldats du feu étaient mobilisés. Une femme pompier a été brûlée au visage et 2 camions ont été détruits. Ces incendies ont détruit plus de 1100 hectares de pins. Monaco affrontera les Italiens de la Juventus Turin pour le compte de la demi-finale de la Ligue des Champions. Match qui se jouera début mai. Et autre compétition, les demi-finales de la Ligue Europa. Lyon sera opposé à l'Ajax Amsterdam.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, la campagne pour le premier tour se termine à minuit. Voilà, on joue la nostalgie à fond, hein, puisque c'était il y a un mois, rappelez-vous, hein, presque le début. Xavier de Namur, on le voit, les Français, comme l'a dit tout à l'heure Eric Scholl, semblent un peu déboussolés. On parle d'indécision, peut-être même de forte abstention, mais en même temps, les Français, ils ont aussi participé à ce changement. On l'a vu avec les primaires, avec des résultats totalement inattendus, donc ils souhaitent aussi chambouler oui, alors, un peu ça.
Moi je le constate tous les jours parce que je discute beaucoup avec mes clients, donc j'en vois des centaines tous les jours. Donc on voit bien qu'ils sont effectivement, ils ont été assez intéressés par les primaires, mais aujourd'hui, bon, avec les affaires qui se sont passées, etc., ils sont un peu paumés parce que ceux qui votaient à droite avec Fillon, bah ils sont un peu dans la panade, ils savent plus trop sur quel pied danser. Et à gauche c'est pareil, on voit bien avec Hamon et puis une partie du PS qui s'est barrée chez Macron, on sait plus trop. Donc en fait ils sont vraiment paumés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait plus trop, ils savent plus sur quel pied danser. Alors moi je rappelle toujours qu'il faut revoir les fondamentaux et réfléchir. C'est-à-dire que moi, quand j'entends, on me dit, ouais, il faut le vote utile, etc. Alors, le vote utile pour la gauche, c'est Macron. Alors, et pour la droite, ça serait Fillon. Mais moi, je rappelais à une de mes salariées à qui j'ai donné ma procuration, parce que j'irai pas voter, parce que je suis pas là, je suis dans le Lot-et-Garonne.
Très bien.
La semaine prochaine. Donc, j'ai donné en disant, vote en ton âme et conscience pour moi. Et elle me dit, je vais voter utile, je vais voter Macron. Alors, je dis, mais rappelle-toi quand même, Macron, c'était celui en 2012, quand il était conseiller de Hollande à la fiscalité et l'économie, et pour un président. Et pendant le secrétaire général adjoint à l'Élysée, c'est lui qui a supprimé la loi Sarkozy sur les heures sup, donc les allègements de cotisations salariales et la défiscalisation. Donc il t'a sucré un mois de salaire. Et puis maintenant, c'est le même qui va dire tiens, je vais le remettre, on va redéfiscaliser. Donc je dis déjà, il y a un problème de cohérence. Donc à chaque fois que tu votes ou les gens votent pour un candidat, regardez les programmes, lisez le programme de Mélenchon, et regardez vraiment si ça vous correspond. Mais arrêtez de dire je vais voter utile sous prétexte on va faire barrage au FN ou des trucs comme ça. Non, je crois qu'il faut vraiment aller voter, que les jeunes aillent voter, ouais. On disait tout à l'heure, vous parlez, ouais, je vais vous montrer un truc. Et on parlait de barbelés et tout.
Vous enlevez votre blouson, ouais, très bien. Non, mais écoutez, ça devient. Ah oui, cette fin de campagne devient très sensuelle. Ouais.
Voilà, la culture est une arme de construction massive. Voilà, c'est pour vous. Vous voyez, c'est des barbelés quand on ferme les frontières, etc. Et quand il n'y a pas de culture, et des étoiles. Et je pense que l'Europe, etc., il faut réfléchir. Je pense qu'on doit être en Europe parce qu'il y a quelque chose ensemble qu'on peut faire. Et c'est pas parce que les Anglais se sont barrés. D'ailleurs, la plupart du temps, de ceux que je rencontre, sont pas très heureux. Et tous les Américains que je vois chez moi, il n'y en a pas un qui a voté pour Trump.
Voilà. Bon, alors, Sébastien Chenu, Marine Le Pen a été très longtemps en tête des sondages du premier tour. Je ne sais pas ce qui va se passer dimanche. On voit que d'être en tête des sondages, ça n'a jamais porté chance. Est-ce que ça vous inquiète ?
Écoutez, on verra dimanche soir. Enfin, moi, je pense qu'elle sortira en tête du premier tour. C'est là aussi mon rapport au terrain qui me fait dire ça. Je note que d'ailleurs, l'ensemble des candidats, à l'exception d'Emmanuel Macron, sont venus sur le terrain européen, sur les positions de Marine Le Pen. Car finalement, vous avez aujourd'hui 10 candidats avec Marine Le Pen, eurosceptiques, et un candidat Eurobéa. On a vu Fillon et Mélenchon finalement un peu comme des anguilles, ne plus savoir exactement, mais devenir eurosceptiques. Non, mais ils ont tous mis dans leur discours une critique très forte de l'Union européenne qu'ils n'avaient pas au début de cette campagne. Donc je note que cette idée, elle a probablement progressé.
Choisis qui est meilleur pour vous.
Non, pour moi c'est pas exact. Moi je pense qu'effectivement il y a un questionnement qui est légitime par rapport à l'Europe et qui vient chez tous les candidats.
C'est du bien de l'entendre.
Parce que ce candidat. Non mais attendez la suite. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la crise des migrants, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu le Brexit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu aussi la Grèce. Donc c'est normal que la question européenne se pose d'une façon ou d'une autre sur comment on continue, comment ça se passe. Ça, c'est une fois que c'est posé, mais on peut pas dire que les positions de Jean-Luc Mélenchon, la position de Jean-Luc Mélenchon, c'est plan A, on renégocie, plan B, on sort.
Vous en faites une charmante porte-parole.
Non, mais je vous rassure, à votre différence, je ne suis porte-parole de personne. Après, ce qui est intéressant de noter, et je continue, c'est que Emmanuel, c'est devenu un événement dans cette campagne quand quelqu'un arrive dans un meeting en disant je suis européen. À ce moment-là, on se tait dans les rangs des journalistes, on dit ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Donc je l'ai entendu deux fois, chez deux personnes différentes. On l'a entendu chez Alain Juppé et on l'a entendu chez Emmanuel Macron.
Allez, juste, ça va se terminer les Infos de France Info. Juste pour terminer justement toutes ces émissions qu'on a faites sur la campagne présidentielle, je voudrais vous faire écouter, peut-être l'avez-vous vu sur Internet, c'était la prise de position d'un humoriste américain, on l'écoute, il s'appelle John Oliver. Voilà ce qu'il nous a déclaré dans La Langue de Molière.
S'il vous plaît, écoutez-moi. L'Angleterre et les États-Unis en fucked up. Ne fucked pas non plus. Vous valez mieux que ça. Ceci est votre chance d'être à la hauteur de la philosophie des Lumières.
Voilà, donc c'est un Britannique qui en parle, en tout cas, c'est vrai qu'il peut bien en parler. Allez, il est temps pour nous de rendre cette antenne bientôt. Donc merci beaucoup à Xavier de Namur, votre livre de Namur sur le gris, entretien au zinc avec un restaurateur libre, c'est chez Court Circuit. Merci Sébastien Chevillet d'être passé ce soir. Un petit coup d'œil à nos partenaires, la une de Marianne cette semaine, c'est votre numéro double.
Voilà, c'est le numéro double d'avant présidentiel pour bien voter, bien regarder, enfin bien voter, vous votez pour qui vous voulez, mais en tout cas vous serez informé des programmes.
Bien sûr, Eric Scholl, la une de Cour International.
Nous, bienvenue dans une France qui boue, et c'est tous les reportages de la presse étrangère dans cette France, et pas seulement à Paris, au contraire, un peu dans tous les territoires français, pour aller voir ce qui se passe vraiment au fond, chez les Français.
Et bravo Cour International, parce que vous avez eu le prix de la meilleure couverture, hein, pour cette année sur Donald Trump. Bravo à vous.